Regard sur le purgatoire. Alors, c'est un livre où lui aussi, il a rencontré une espèce de petite paysanne. Et lui, il connaît un petit peu Saint Thomas d'Aquin, et il a rencontré une petite paysanne aussi, sympathique, tout, quoi. Et qui, note, c'est lui, apparemment, c'est moitié lui, moitié, enfin, on sent bien, moi je connais bien Henri Drabe, je connais bien Monseigneur Poincar, je connais bien, et la dernière fois que je l'ai vu d'ailleurs, c'était à, c'est pas en France, c'était, je dis Henri, maintenant t'es évêque et tout, parce qu'on avait suivi des cours de théologie ensemble sur les bancs de l'université, et, oh Henri, puis c'est le neveu aussi du père Arnoux dont je m'occupais pendant 2 ans. Comment vas-tu? C'est formidable que tu sois là et tout, t'es évêque et tout. Et il m'a souri, il m'a dit, et vous mon père, comment allez-vous? Bon, alors, ça c'est Henri, on va faire tout cacher. Bon alors donc... donc c'est... Voilà, donc il y a des très belles introductions, des belles notes et tout, et on sent bien qu'il a demandé de formuler les choses, c'est lui, en fait, évidemment que c'est principalement lui qui écrit le bouquin, mais il fait comme si c'était comme si c'était quand même elle. Mais il doit y avoir des deux, certainement. C'est un petit mélange merveilleux. Et pourquoi est-ce que je vous prends ça à propos de notre démarche? Parce que, justement, je disais, il faut qu'on découvre notre âme spirituelle. Bon, découvrons notre âme spirituelle, au fond de notre âme spirituelle, eh bien, qu'est-ce qu'il y a tout à fait au cœur, au centre? Il y a cette présence, donc, d'une fontaine vivante, celui qui a soif qui vient à moi, et en lui jailliront des fleuves d'eau vive, c'est que de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Connaissez le passage que Jésus a prononcé en criant dans le temple de Jérusalem le jour de la fête de Soukhot, de la fête des Lumières. D'un seul coup, il s'est mis à hurler, crier dans le temple de Jérusalem, celui qui a soif qui vient à moi, et en lui jailliront des fleuves d'eau vive. Et quand on le dit en grec, dans le texte original, donc, on peut aussi bien traduire celui qui a soif qui vient à moi, alors jailliront de moi, de mon cœur, des fleuves d'eau vive. Et ça peut se traduire aussi bien, c'est exactement la même phrase. Celui qui a soif qui vient à moi, et de son cœur à lui, jailliront des fleuves d'eau vive. C'est ce qu'on appelle justement la grâce. Hein. Les fleuves d'eau vive, cette grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, cette vie divine, ce torrent qui ne cesse de jaillir de notre âme spirituelle. Et en fait, en jaillissant de notre âme spirituelle, ils jaillissent du cœur sacré de Jésus, des saints de Jésus, jaillissent cette grâce. Et dès qu'on est dans la grâce, on est en même temps la source de notre âme spirituelle, au centre de notre âme spirituelle, et en même temps la source du cœur sacré de Jésus. C'est ça qui est extraordinaire, voyez. Et la grâce, elle fait que du coup, on est tout proche de l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus est un amour très intense. Un amour humain très intense pour Dieu. Une soif ardente. Et bon, là, le corps, d'une certaine manière, voyez, on ne peut pas dire encore que le corps soit là, voyez, à proprement parler. Dans la grâce, on ne peut pas dire, la grâce, elle vient vivifier l'âme spirituelle, voyez bien. On ne peut pas dire qu'il y ait une participation du corps encore là, dans cette histoire de grâce. Et c'est pourquoi je m'intéresse maintenant aux âmes du purgatoire, parce que elles ont fait, à la suite du jugement particulier et de la touche du cœur de Jésus ouvert avec tous ces torrents de grâce et de miséricorde, elles ont fait le plein de la grâce, d'une certaine manière, et elles ne vivent donc que de cette soif, de cet amour complètement intarissable d'amour, et ce qui fait donc leur souffrance. Et donc, on a, à travers la description de cette manière concrète, si je puis dire, pour les âmes du purgatoire de vivre de la grâce, un petit moyen pour nous de savoir comment on vit de la grâce. Une fois qu'on a découvert la spirituelle, on se plonge dans la grâce et voilà ce qui apparaît. Et si on vit pas ça, ça veut dire c'est qu'il faut aller plus profond pour voir où se trouve la grâce en question, n'est-ce pas? Voilà un très beau critère pour voir. En même temps, bon, c'est très, il y a beaucoup. Je vous recommande ce livre qui est sûrement Sûrement, le de très loin, de très très loin, le livre le plus extraordinaire qui ait jamais été écrit depuis le commencement de l'Église sur le purgatoire. Regard sur le purgatoire, édition Saint-Paul.
On trouverait ici peut-être. Oui. On va en descendant. Oui. Vous l'avez vu hier.
Oui, oui. Voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Je vais vous en lire quelques passages et j'espère que je vous mettrai un petit peu l'eau à la bouche en le faisant. Donc l'ange me dit. Donc là, vous voyez, je vais juste laisser les passages qui viennent de la révélation angélique. L'ange me dit, mon Saint-Ange gardien m'a montré, il m'a dit plusieurs choses que je note en partie ici pour leur valeur instructive. Un nombre d'âmes toujours plus grand, c'est pas la peine de noter, hein, sombre dans les abîmes de l'enfer éternel. Le danger de vous damner va sans cesse croissant à cause des aberrations de votre façon de vivre. De ce que vous nommez à tort avec tant d'aveuglement que de vanité, les progrès de la civilisation. Est-ce un progrès que cette société qui attache plus d'importance à ce qui passe, aux satisfactions éphémères et trompeuses qu'aux vérités éternelles et à la vie de l'âme en Dieu par la grâce? Il n'est pas une âme sur 10 qui travaille à son salut. Très sévèrement, l'ange poursuivit un autre thème qu'il aborde fort rarement, sans doute à cause de son aspect prophétique. Vous allez au-devant d'une période très grave, à cause des attentats perpétrés directement contre la vie, et contre les sources mêmes de la vie. Dieu est prêt de châtier l'humanité à la mesure de ses crimes effroyables. Vous allez au-devant des rigueurs de la justice de Dieu. La sainteté de Dieu a envers vous de grandes exigences. Mais vous oubliez trop souvent que vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est intéressant d'être enseigné par les anges, quand même. Lui, il n'a pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'ange, vous comprenez ? Qui nous dit ça ? Vous oubliez encore davantage que vous êtes rachetés dans le sang du Christ. Mais la Trinité divine va susciter parmi vous une armée de saints, un grand nombre d'adorateurs qui mépriseront toutes les vanités et les attraits secondaires du monde pour se consacrer uniquement à la glorification de Dieu et pour travailler dans le silence et la prière au salut de tous leurs frères. Oui, la miséricorde divine touchera nombre d'âmes qui fermeront les oreilles aux clameurs du monde et entendront enfin les appels à la conversion que ne cesse de vous adresser le Seigneur. Et par leur unique désir de l'unique gloire de Dieu, les saintes âmes travaillent aussi à vous obtenir cette floraison de sainteté pour le temps qui vient. Unissez-vous à elles, alors vous comprendrez plus tard. Oui, c'est une espèce d'unité avec l'Église tout entière et surtout les âmes du purgatoire qui vont nous permettre de vivre ce que représente le point de vue de la découverte au fond de notre âme du fruit des sacrements. Les âmes du purgatoire ne vivent plus au purgatoire qu'avec le fruit de ces sacrements, qui est donc la grâce et cette attente de la Jérusalem céleste. Et c'est ça qui les fait souffrir avec la plus grande ardeur. Et alors c'est ce qu'on va lire un petit peu, qu'est-ce que ça représente de vivre de cette grâce fruit des sacrements. Nous avons vu pendant un an que pratiquement le fruit de tous les sacrements, ça revient presque à dire que ça met, j'allais dire, en nous la germination proxime de la Jérusalem céleste, de l'éternité, du retour du Christ, de l'unité absolue et définitive du corps mystique du Christ. Vous voyez, on l'avait déjà vu ça. De la floraison en un seul acte des sept dons du Saint-Esprit. Voilà pour le baptême. Vous voyez, on avait vu cette liste-là. Oui, de la mission de la très sainte Trinité dans tous les corps et dans le monde. Voilà pour le sacerdoce. Moi, je crois que j'ai fait la liste de tous les fruits du sacrement. Et ça revient à dire, et ça c'est une grâce, c'est vivant, on est brûlé par ça. Voilà ce que c'est la grâce sanctifiante qu'on va vivre. Eh bien, au cours de l'oraison du soir, voilà l'état dans lequel on est au fond de notre âme, et on ne s'en rend pas compte, mais il faut absolument de plus en plus qu'on s'y engloutisse pour s'habituer à vivre ça. Et je voudrais vous lire ça comme pour une espèce d'école d'oraison. L'école d'oraison avec les âmes du purgatoire. Puisque l'oraison consiste à vivre entièrement englouti dans la grâce et le fruit des sacrements. Au cours de l'oraison du soir, comme je méditais à quelques points de l'évangile, je vis soudain mon ange gardien apparaître devant moi dans une vive lumière. Il tendit la main vers une vive lumière et je vis dans cette clarté comme des diamants recouverts d'une gangue sombre. Tiens, ça vous rappelle quelque chose. Thérèse d'Avila, n'est-ce pas? Bon. Un trait de feu, tiens, sacré camarade, frappait cette gangue et l'éliminait progressivement. Découvrant les gemmes précieuses qui se mettaient à resplendir de tout leur éclat et pureté. Tandis que je contemplais cette vision, l'ange me dit « Cette image peut te faire comprendre le mystère des âmes du purgatoire. Une âme qui est au purgatoire est fixée en son degré de sainteté finale et dans l'amour. Elle est confirmée en grâce, elle est sainte, sa charité n'augmente plus. Elle se découvre dans sa plénitude et elle s'y épanouit. Et c'est pour cette raison que les âmes te sont montrées comme des diamants parfaits, purs et éclatants. Au jugement particulier, l'âme, en effet, a été débarrassée de tout péché et de toute imperfection. C'est beau, le jugement particulier. Seule demeure la dette de son péché, c'est-à-dire la peine qu'elle doit subir en expiation. Et cette peine est figurée par la gangue sombre, qui est extérieure au diamant. Parce que la peine n'atteint pas l'âme, elle ne la blesse plus. Elle l'entrave, et c'est tout. Et elle lui est cause d'attente. Et c'est cela, sa souffrance expiatrice. La peine, elle est sur l'âme, elle n'est pas en elle. Bien que l'âme en ressente les effets. C'est le feu de l'amour divin qui frappe, comme dirait le Père Emmanuel, comme un rayon laser. Comme un rayon laser. Qui frappe l'âme en l'attirant, parce que c'est un feu qui attire, qui brûle en attirant. Et l'âme est attirée. Et c'est ça, le purgatoire, la gangue, vous voyez. Le rayon laser frappe en attirant. Consume la peine en produisant la souffrance d'amour, et c'est l'action de ce feu d'attraction proportionnée au poids de la peine qui constitue la souffrance même du purgatoire, cette souffrance d'amour. Je vis de façon intellectuelle que les âmes du purgatoire connaissent une sorte de joie et de bonheur parce qu'elles sont heureuses de glorifier Dieu, de vivre la victoire de l'amour de Dieu sur elles en totalité, plaçant sa gloire au-dessus de tous leurs intérêts. Et même de leur intérêt propre et immédiat, parce qu'elles acceptent, et même elles accueillent avec allégresse et amoureuse reconnaissance cette attente, car cette attente glorifie Dieu en lui-même. Alors mon ange me précisa. Ce bonheur des âmes est un avant-goût de la béatitude éternelle. Les âmes du purgatoire ne sont pas résignées, en disant, non, je souffre, bon, il faut que je me résigne. Pas ça du tout. Mais totalement absorbée par Dieu, très active dans le service de sa présence agissante et de sa glorification. La glorification, c'est la victoire de son amour. C'est-à-dire que la victoire de son amour soit agissante. Bien que celle-ci s'exerce avec une très grande douleur pour elle. Eh oui, quand quelqu'un que vous aimez terriblement et qui n'est pas là, n'est pas là. Elles ont l'assurance que le purgatoire n'est pas éternel et qu'il leur promet la vision définitive de Dieu. Tu vois, au purgatoire, la douleur des âmes, c'est ce qui fait leur bonheur. Et leur joie, elle est pleine. Et cette joie pleine, c'est leur peine. Puis j'eus une autre vision. Mon Saint-Ange gardien étant toujours auprès de moi, je voyais les âmes du purgatoire immergées dans un feu, une lumière vive, vivante, un flot ardent, éclatant. vive flamme d'amour, vous comprenez? L'ange m'expliqua. Les âmes sont plongées dans les flammes de l'amour. Elles sont toutes unies dans ces flammes, dans la charité divine qui les attire, les enflamme, les éclaire, les illumine. Le purgatoire est le royaume de la divine amour. Par cette immersion dans l'amour divin, les âmes sont livrées à la brûlure vivante de la charité, et qu'elles exercent en perfection, tant envers Dieu qu'entre elles, et envers vous sur la terre. Dans la lumière de l'amour divin, elles se connaissent entre elles, elles se savent unies, elles sont attirées toutes par Dieu. Et dans cette lumière, Dieu se communique toujours davantage à elles, accroissant leur allégresse, les attirant vers la vision béatifique. Ce feu d'amour, cette lumière de la charité divine sont vraiment une béatitude, parce qu'elles ouvrent peu à peu les âmes à l'accomplissement en plénitude des desseins de Dieu sur elles. C'est des beaux textes, hein? Je contemplais donc ces saintes âmes qui souffraient par amour, toutes envahies par Dieu, toutes livrées à cet amour prodigieux de Dieu. Mon ange me dit encore, leur prière est toute ordonnée à l'unique glorification de Dieu dans son amour. Glorification, rappelez-vous toujours, hein, glorification, victoire de son amour de manière agissante. Gloire, c'est victoire de l'amour. Donc glorification, c'est victoire, faire en sorte que la victoire de l'amour soit agissante en nous. Donc quand je fais en sorte que la victoire de l'amour de Dieu soit agissante en moi et dans mon prochain, je glorifie Dieu. La prière est toute ordonnée à la seule glorification de Dieu dans son amour et non pas à leurs besoins propres. Elle ne prie pas pour être délivrée du purgatoire, à aucun moment. Dis-nous-y. Mais pour que Dieu soit glorifié, car il sera glorifié davantage lors de leur délivrance. Oui. Donc, évidemment, elle souhaite qu'il y ait une plus grande glorification de Dieu et que la victoire de l'amour de Dieu soit plus agissante en elle. Or, ce sera plus agissant quand ils seront dans la vision béatifique. Mais c'est uniquement à cause de ça. C'est pas pour se trouver moins souffrant. Au contraire, justement, on voit à certains moments qu'elle désirerait rester des siècles au purgatoire si ça pouvait donner une gloire plus grande à Dieu. Parce que c'est uniquement l'amour de cette victoire de l'amour agissante de Dieu qui est leur seule motivation. C'est leur seule vie intérieure. C'est leur seule soif, c'est leur seul désir. Le purgatoire, c'est le lieu du désir d'amour. Oui, elles ne prient pas pour être délivrées du purgatoire, mais pour que Dieu soit glorifié par leur délivrance. Elles ne prient pas pour la conversion des pécheurs de la terre ou pour la sanctification des âmes de la terre, mais pour que Dieu soit glorifié si ces âmes se convertissent. Et pour que Dieu soit glorifié par leur sanctification. C'est pour Dieu, c'est pour que l'amour de Dieu soit dans une victoire d'amour agissante. Ça, oui. Mais que quelqu'un soit converti, son fils. Écoutez, essayez de comprendre et écoutez sans discuter. Il ne faut jamais perdre de vue que les âmes du purgatoire n'ont aucun regard sur elles-mêmes, ni sur quelque personne créée, mais seulement sur Dieu seul. Leur regard est unifié, purifié en Dieu, et c'est en lui et par lui qu'il leur est parfois permis de contempler tout le reste. D'où m'apparaissait si clair, si limpide. Combien de questions superflues et vaines se trouvent alors balayées, voyant l'amour de Dieu s'agissant dans des âmes si simples. Dieu lui-même est si simple. Alors, mon Saint-Ange reprit la parole. Dans le purgatoire, les âmes sont en état de besoin et de réceptivité. Elles sont également toutes livrées à l'amour de Dieu. Ce double état de besoin et d'abandon total à l'intérieur de l'amour de Dieu, si paradoxal que cela puisse te paraître, est la conséquence du feu d'amour du purgatoire. Feu qui les attire et dans la douleur et dans la joie. Leur douleur est joyeuse, leur joie est douloureuse. Telle est leur vie. C'était juste une petite introduction. Et maintenant,
contradiction quand même à d'autres révélations antérieures.
Ah, oui, vous lirez l'ensemble, d'accord? Moi, je vous lis des passages parce que ce qui m'intéresse uniquement, c'est de voir ici, je vous lis quelques petits passages qui montrent ce que c'est que la vie de la grâce. La vie de la grâce, c'est ça. Quand je vis, je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être livré à l'amour de Dieu, que je ne vive que l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est juste l'état dans lequel vous vivez lorsque vous êtes dans la grâce. Donc, si vous ne vivez pas ça, c'est que vous n'êtes pas plongé dans la grâce. C'est tout. Je dis ça uniquement pour ça. L'aspect des douleurs, il y a d'autres passages, t'inquiète pas. Hein? Bon, maintenant, la foi. Quand on est dans la grâce, on va pouvoir, du coup, faire des actes de foi, faire des actes d'espérance, faire des actes de charité, surnaturellement parlant. Des actes de foi d'ordre théologale. Pas des actes de foi humains. On dit, au moins, je crois bien que Jésus est Dieu, j'y crois, etc. Mes parents, ils y croyaient, moi aussi, j'y crois. En plus, j'ai eu un miracle. Mon fils, il était paralysé, et maintenant, il marche. Ma fille avait un furoncle, j'ai fait une prière, c'est fini. Bon, ça, c'est... Bon, d'accord. Un jour, j'ai pris une photo, il y avait une lumière. Mais je t'assure, c'est une âme du purgatoire. Enfin, bon. Non, c'est pas ça. La foi. La foi, l'espérance et la charité sont quelque chose de surnaturel et théologal. Donc je voudrais avec vous lire l'état dans lequel se réalise le point de vue de la foi chez des âmes qui sont purement âmes baignées dans la grâce. Ça va? Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'espérance. Troisièmement, la charité. Ouais, comme ça, on aura fait une conf absolument parfaite, épinglée. Et en plus, c'est pas compliqué, Henri Brancard. Donc. Pour raison du matin, mon âme a été ravie dans l'immensité de l'amour divin, comme dans un océan de suavité indescriptible. Ça, c'est elle qui dit ça. Elle fait une expérience d'extase avec son corps. Attention, vous mélangez pas les pinceaux. Ici, elle est avec son corps, celle-là. Et voici ce qui lui arrive. Voici ce qui lui arrive. Comme une notion de suavité indescriptible dans lequel je me perdais totalement, mer de feu, d'amour et de lumière. Mon âme était comme saisie par Dieu, tirée en lui. Voilà, quand vous êtes dans votre spiritualité, que vous trouvez le fruit des sacrements. Laissez-vous aspirer par ça. Ça y est, dans l'océan de feu, mon âme était comme saisie par Dieu, tirée en lui, reposant en lui dans une jubilation ineffable. Et c'est la grâce qui fait le travail, c'est pas vous qui le produisez, vous savez. Je ne pensais plus, je ne réfléchissais plus, je me livrais. Je me laissais posséder et lui me comblait de son amour, de lui-même, et je souffrais en même temps d'une douleur déchirante, comme si mon âme eût été coupée en deux, qu'elle était blessée comme frustrée. Je sentais confusément les limites de sa faiblesse, de mon âme, et son incapacité à posséder pleinement l'amour de Dieu. Bien qu'elle le saisissait quand même, le touchait par une certaine manière. Puis, cette étreinte se relâcha quelque peu, et je me vis à l'intérieur de Dieu. Mon âme était plongée dans le feu qui brûlait le cœur sacré de Jésus. Et je pouvais y contempler le ruissellement de son amour infini sur l'Église tout entière, les torrents de fleuves d'eau vive. C'est ça la grâce. Hein? Et je pouvais y contempler le ruissellement de son amour infini sur l'Église tout entière. Un double flot d'eau et de sang baigné, vivifié, enflammait sans cesse l'église militante et le purgatoire. Quant au ciel, c'est ce très saint cœur lui-même, me semble-t-il, le ciel lui-même. Jésus me demanda d'offrir de telles grâces tout à la fois suaves, ardentes et douloureuses pour les saintes âmes du purgatoire, d'y associer des âmes du purgatoire en quelque sorte à cette suavité. Alors je protestais à l'intérieur de son cœur sacré. C'est des paysannes gonflées. Et quoi, monseigneur? Bienheureuses ces âmes du purgatoire pour qui vous demandez d'offrir cet amour. Elles souffrent, d'accord? Oui, mais au moins elles vous possèdent, elles. Et on ne peut plus vous ôter à elles, elles vous possèdent d'une façon définitive et tout. Alors, c'est pas mal ce truc-là, elle dit quoi. Hein? Et en plus, il faudrait donner de plus, hein. Jolie réaction, c'est pas bon. Alors, le Seigneur dit, si tu préfères connaître ces joies du purgatoire, je ne suis que répondre. Il m'annonça que pendant 3 jours, mon âme serait plongée dans cet état de l'amour entièrement intégré dans les flammes de la joie, de la présence vivifiante et glorifiante de Dieu. Et aussitôt, il se réalisa ce qu'il avait énoncé. Ah! Et donc voilà que cette âme, d'un seul coup, va vivre de la grâce, mais uniquement, si vous voulez, quelque part, sans l'aide du corps, si vous voulez. Hein? Vous voyez? C'était une torture inouïe. Je jouissais de Dieu dans une sorte de possession. C'était une jouissance tout de même, hein? Une perception intellectuelle, mais elle était incomplète et déchirante. Il me semblait saisir Dieu rempli d'amour comme à travers un voile. Mystérieuse présence, don d'amour, j'en tremblais. Tremendum, fascinandum. Pendant toute une journée, mon âme fut tenue dans cet état, dans cette peine brûlante. J'étais comme devant un rideau de lumière, voile transparent au-delà duquel mon amour, au-delà duquel mon amour, c'est-à-dire Dieu, l'objet de mon amour, se tenait, voulant se donner, et moi tendant les mains sans avoir aucune possibilité de le saisir, me fondant en lui, l'étreindre, le posséder, exactement comme ces fiancés qui sont là, qui se voient à travers la vitre, parce que l'autre est prisonnier, vous savez, pour 20 ans. C'est ça, quelque chose comme ça. L'amour ardent, 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 mais à la vitre. Durant toute cette journée, mon âme fut favorisée de plusieurs visites de la Vierge Immaculée, de mon ange gardien, de mes amis du ciel, mes saints patrons et protecteurs, de parents décédés déjà au paradis. Ils venaient à moi à travers ce voile de lumière, me visitant, me parlant de l'amour divin, avec tant de flamme et d'allégresse que mon âme était torturée encore plus par le désir de l'amour, le désir de le voir enfin, si cela pouvait se faire, ce voile de lumière s'ouvrir, se déchirer, pour révéler l'amour dans sa plénitude et me permettre de le saisir, d'en jouir et de le savourer. Durant toute la journée, je croyais à chaque instant mourir à cause de ce désir brûlant, parce que les puissances de mon âme étaient comme déchirées, laminées par l'amour, et il me semblait qu'en cet état, le voile de la foi se serait déchiré pour mon âme, parce qu'elle avait déjà accès à de nombreuses réalités cachées, puisqu'elle en voyait l'existence. Mais je ne voyais pas Dieu en lui-même. Seule sa mystérieuse présence et l'attraction infinie de son amour était perçue comme au-delà d'un voile. Au terme de la journée, l'ange vint à moi et il me dit. Au purgatoire, la foi subsiste. Elle n'est pas encore remplacée par la vision béatifique. Tu l'as bien vécue. C'est bien, tu t'as bien bavé pendant... L'âme au purgatoire ne voit pas Dieu. Elle perçoit seulement sa présence mystérieuse. Au moment de votre mort, le voile de la foi ne se déchire pas totalement. Elle ne se déchire totalement que pour les âmes introduites aussitôt dans la gloire de la vision face à face avec Dieu. Pour celles qui doivent rester au purgatoire, la foi subsiste encore partiellement. Ces saintes âmes du purgatoire ont en effet la connaissance expérimentale d'un nombre innombrable de réalités surnaturelles qui restent pour vous sur la terre des mystères incompréhensibles. Elles expérimentent leur propre immortalité, elles sont dans l'éternité, elles jouissent des effets de la communion des saints. Elles voient la Vierge Marie, les anges et les saints. Elles savent que le ciel et l'enfer existent. Elles en touchent l'existence. Mais elles ne voient pas Dieu qu'elles ne possèdent pas encore. Et c'est sur ce point que la foi s'exerce encore chez les âmes du purgatoire. Mais leur intelligence ne connaît plus aucun doute. C'est une certitude totale. Leur volonté est fixée dans la soif et la soif d'amour et le pur vouloir divin, ne connaît plus aucune hésitation. Ces âmes saintes sont plongées dans une prière contemplative, une humilité délicate et une très grande amour révérentiel de Dieu, qu'elles savent présent, mais qu'elles ne voient pas de l'intérieur de lui-même. C'est dans cette attente douloureuse de voir Dieu et de le posséder enfin pleinement qu'elles sont attisées en leur délit, en leur désir, et que leur amour est souffrant. C'est beau. L'exercice maintenant de l'espérance au purgatoire. Vous comprenez pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que
vous voyez que la foi a une manière surnaturelle de s'exercer, et puis une manière humaine de s'exercer. Bon, quand il s'agit de la foi par rapport à l'existence de Dieu, l'existence du purgatoire, l'existence du ciel, l'existence de l'enfer, tout ça, c'est pas très surnaturel, vous comprenez ? Parce que je m'en dis, vous comprenez ? Platon, il parlait du purgatoire, de la réprobation, etc. C'est du bon sens, tout ça, c'est bon. L'éternité, c'est l'immortalité de l'âme, tout ça, c'est pas surnaturel. Bon, on sait, vous comprenez ? Tandis que la foi qui atteint l'intimité divine, trois personnes, cet amour fulgurant, les processions de la Très Sainte Trinité, cette attraction, ce feu, cette gloire, alors là, oui, comprenez ? Je vis de cette présence, mais je suis attiré, j'en vis pas encore assez. Alors il y a la vie, je contemple, mais je ne peux pas passer dedans. C'est ça la foi théologale qui s'origine dans la grâce surnaturelle que nous trouvons au fond de notre âme spirituelle. Il faut s'y plonger dans cette grâce pour faire des actes de foi. Acte d'espérance. Toujours intéressant, hein? Il me reste 7 minutes, ça c'est un exercice de style. Hein. Dès l'horizon du matin, mon âme fut de nouveau plongée dans cet état de purgatoire, de purification. C'est pour ça que je vous le lis, parce que l'âme dans la grâce se purifie. Et la purification, elle passe dans une nuit de l'espérance, une nuit du cœur. Un appauvrissement pour qu'il y ait que la richesse, la brûlure, les trésors de l'amour de Dieu. Qu'il n'y ait que ça. Que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un amour? Un amour même très intense à côté de la glorification. Et je ne vis que pour la gloire de Dieu. Que pour la victoire de l'amour de Dieu surtout. Le reste, je m'en fous. C'est ça l'espérance. Il me semblait que la partie inférieure de mon âme était tout à fait morte. Je dis à peu près morte parce que je continuais tant bien que mal, plutôt mal que bien, à vaquer à mes occupations. J'avais l'impression de voir mon âme coupée en deux et déchirée comme la veille. Dieu se laissa encore entrevoir à travers ce voile de lumière dont j'ai parlé. N'étant ni saisi ni possédé par lui, il enflammait mon âme des désirs les plus violents, au point que, dès le milieu de la journée, je dus me reposer sur un lit épuisé, car mon corps ne résistait plus à ces assauts d'amour. Mais mon âme savourait les prémices de cette union future à Dieu. Et c'était une suavité à la fois si exquise et si douloureuse que j'en perdis connaissance. Mais mon âme, comme jetée dans une fournaise, restait pacifiée, une paix la plus grande possible, tout en étant dans une souffrance continuelle. Voilà l'état de la pauvreté d'espérance. Pendant toute la journée, ma mémoire resta comme liée, soumise à cette sécheresse et à cette âpreté inouïe. Incapable d'autre activité qu'un immense regret de toutes mes fautes. Une sorte de confession intérieure. Mystère de la confession, dans laquelle tous mes péchés m'étaient révélés l'un après l'autre, et par centaines et par milliers. J'ai revu en ce jour ma vie tout entière, jusque dans ses moindres replis, avec ses plus petits manquements, ses fautes graves, ses hésitations, ses complaisances, ses lâchetés. Et à chaque faute, mon âme était comme broyée. Je criais intérieurement, « Oh mon Dieu, ai-je eu si peu souci de ta gloire? Ai-je gaspillé à ce point tes grâces ?» Mon âme restait cependant dans une grande paix, même si elle était douloureusement écrasée par sa propre pauvreté. C'est beau. Et c'est vrai en plus. La révélation de l'âme, ce qu'on appelle quelquefois l'avertissement, n'est-ce pas ? La révélation de l'âme à soi-même, c'est ça. C'est pour vivre de l'espérance. Je n'avais pas peur d'être objet de la réprobation de Dieu. Mais il me paraissait alors que le plus important, c'était la gloire de Dieu. J'avais une soif dévorante de cette gloire. Je désirais rester dans cet état de torture aussi longtemps qu'il le faudrait pour que Dieu puisse enfin être glorifié en moi-même et sans cesse, continuellement et à jamais. C'est beau ça. Cette grâce profonde de confession intérieure a été un bienfait inouï pour mon âme. Cela s'ajoutait à tout ce qui m'avait été accordé la veille. Je crois que le Seigneur se réservait de me faire connaître ses états progressivement, de manière successive, parce que la nature humaine ici-bas ne pourrait pas y résister, tant cette souffrance d'amour est forte. Tout au long de la journée, en effet, les défaillances corporelles se succédèrent, mais mon âme était immergée dans une paix impossible à décrire, et la souffrance, même si elle était vive, enflammé de désir, était paisible et meurtri. À chaque visite de la Vierge Marie, des anges ou des saints, j'étais brisé encore plus, car elles attisaient le désir qui était en moi, me faisant contempler en eux tout ce qui m'était promis, à quoi j'aspirais de toutes les forces de mon âme liées dans le pur vouloir divin. Mais je restais là, abandonné sereinement à la pure volonté de Dieu, sans hâte ni impatience, désirant brûler uniquement de l'attente de la gloire de Dieu. C'est le seul mot, la seule parole que je pouvais formuler. Il me semblait que toutes les visites célestes me répétaient « Gloire, gloire, Dieu est le Saint des Saints, gloire, gloire à lui. » Alors mon ange, tout flamboyant, sévère, me dit avec gravité « Tu expérimentes à présent le grand mystère de la purification » qui, en quelque sorte, fait l'amour du purgatoire. C'est le mystère de l'espérance, cette douleur sereine que tu ressens, et celle-là même qui porte les âmes en grâce vers le Très-Haut. Une attente purifiante et douloureuse pour l'âme de la révélation dernière de Dieu dans la vision face à face. Au purgatoire, l'espérance se simplifie totalement jusqu'à s'épanouir en attente radicale de Dieu, attente pure et désintéressée dans laquelle il n'y a plus ni précipitation, ni impatience, ni supputation, pure attente de l'heure de Dieu, attente douloureuse ô combien. En cette attente parfaite, l'âme reste invariablement sereine, elle est comme plongée dans une douloureuse quiétude. La certitude de son salut entraîne pour elle un ardent désir, une attente brûlante et consumante. Tel est l'état même du purgatoire, que cette parfaite espérance qui n'a d'autre objet que Dieu, qui n'a d'autre désir que la gloire de Dieu. Au purgatoire, les âmes savent que le moment de leur délivrance est fixé par la miséricorde divine, que la justice de Dieu l'a établie pour la plus grande gloire du Très-Haut. Et c'est pourquoi elles sont dans la joie et dans la sérénité, puisque leur sérénité est la paix même de Dieu. Vous comprenez que l'espérance, chez nous, elle a quelque chose d'humain, parce que j'espérerai tellement recevoir des grâces à la prochaine communion. J'espérerai tellement, si je prenais la photo de la grotte, avoir plein d'apparitions sur la photo. J'espérerai tellement que à la prochaine photo, quand on dit « Regarde, je t'ai pris en photo près de la Sainte Vierge », regardez dans votre cœur, dans votre main, vous avez un cœur qui phosphore et sort. Ça, c'est zéro. C'est pas l'espérance. L'espérance, c'est autre chose. Vous voyez ? J'espérerais tellement avoir les suavités, etc. J'aimerais tellement être... Super, une grâce terrible. Pas l'espérance. L'espérance surnaturelle, c'est d'être dans cet état. Il faut se plonger par l'âme spirituelle dans le fruit du sacrement, et du coup, je vis le mystère de la confession. Qui vient d'être décrit ici. Troisièmement, exercice de la charité au purgatoire. Et si, c'est fini. De toute façon, c'est quasiment... Oui, c'est fini. Jusque-là, j'ai connu une grande lumière, une paix ineffable. À présent, mon âme, plongée par la grâce de Dieu, dans un amour flamboyant et dévorant. Alors, mon ange qui était là, je lui demande, ah, ça y est, c'est fait. Quand est-ce que j'ai fini? Maintenant, j'ai fini, je vais pouvoir entrer dans l'expérience des âmes du purgatoire qui rentrent au ciel. L'ange ne me répond rien. Alors, je soupire. Tout autour de moi, des milliers d'âmes embrasées d'amour. Une douce lumière nous environne et nous pénètre d'un feu extrêmement profond. Je suis dans une jubilation totale, mon allégresse augmente encore et l'ange me dit, ceci est la porte du ciel. Vous savez que vous avez trois moments dans le purgatoire, le grand purgatoire, le moyen purgatoire et le parvis, la porte du ciel. C'est le sommet du purgatoire, là où les âmes sont toutes plongées dans la pure attraction de l'amour divin. C'est là aussi que les souffrances sont les plus vives et les plus intenses et les plus denses du purgatoire. Et oui, puisque c'est là, c'est là où tu es au maximum, je veux dire, et puis, tu comprends? C'est l'amour, le fou, là. Vous comprenez? Allégresse, on souffre par amour, on souffre d'amour, car c'est la promesse du don de l'amour. Il y a une vaste nuée éclatante sur ces âmes, dans laquelle certaines sont parfois élevées, et ce sont des explosions de bonheur, de jubilation dans le purgatoire. Ces âmes accèdent à la vision béatifique, elles rentrent au ciel. Mais toi tu restes, bon, mais ça se fait bientôt, ça sera pour moi, dans un siècle. Bon, alors, et ces âmes accèdent à la vision, rentrent au ciel, on souffre d'amour, vous comprenez? Et on aime cette souffrance brûlante et l'âme toute transportée d'amour est en proie à des impatiences amoureuses de voir Dieu le posséder. Elle soupire, elle se languit d'amour, elle ne peut exprimer cet amour que par une prière enflammée, action de grâce, jubilation, louange de la sainteté de Dieu, de sa miséricorde qui a sauvé, de sa justice qui a purifié. Mon âme ne peut expérimenter spécial de la charité au purgatoire que de façon globale, générale, dans ce feu d'amour brûlant. C'est impossible pour moi, car je suis dans un corps. Et l'ange l'éclaire et lui explique cette grande charité du purgatoire. Au purgatoire, les saintes âmes sont investies par l'amour de Dieu. Et elles jouissent de cet amour infini. Elles sont toutes tournées vers Dieu. Elles l'aiment parfaitement et le lui manifestent dans la gratitude et la reconnaissance. Elles rendent grâce d'être sauvées, d'être confirmées en grâce et désormais impeccables. Capables de glorifier Dieu en esprit et en vérité. Elles sont comme hébétées d'amour. Au ciel seulement, elles jouiront de l'amour dans sa plénitude radieuse, dans une union intime à Dieu amour. Mais il y a encore le désir au purgatoire. Ce désir empêche la plénitude de l'amour. Au ciel, il n'y a plus aucun désir. Il y a la possession. Le purgatoire, en effet, est un monde de charité. C'est pourquoi il est établi dans la paix, l'harmonie et l'ordre, qui sont autant de fruits de Dieu et de l'amour. Elles sont toutes livrées au pur amour divin qui les a envahies totalement dans leur âme et dans toute leur puissance. Elles sont toutes et par ce règne de l'amour de Dieu en elles, je peux dire qu'il n'y a pas de plus grande allégresse, hormis le bonheur d'être au ciel, que celle de se trouver dans cet état final de désir, de souffrance dense. Et je contemple ce monde d'amour et de prière, où les saintes âmes avant tout prient Dieu pour le glorifier, en témoignage de bonheur, d'allégresse, de reconnaissance, de gratitude, et en lui, dans son amour, elles prient, pour que cet amour dont elles vivent rejaillisse et envahisse nos âmes. Telles sont les grandes vérités qui m'ont été montrées en ce jour, puis je revins à moi, mon corps brisé, épuisé, l'âme encore toute étourdie d'amour. Dès que l'homme cherche son âme spirituelle, il s'aperçoit qu'un tout petit point lumineux se trouve en lui au milieu. Évidemment, c'est plus sympathique, hein. Mais vous comprenez le danger, c'est que ça peut être imaginatif. C'est-à-dire, si vous adorez pas, si vous gérez pas vos émotions, Tintin. Le petit point lumineux, c'est purement imaginatif. Donc dès que l'homme cherche, il s'aperçoit qu'un tout petit point lumineux se trouve en lui, au milieu. Au centre, quoi. Vous voyez bien, au centre de l'âme. Comme la lumière au milieu de l'ampoule. Incrédule, il la contemple un instant. Si son cœur est doux, aimant et patient, il sent à l'intérieur de cette lumière un appel. Quelquefois, on parle des liens du sang. C'est comme s'il reconnaissait son sang, son propre sang. Car en effet, au premier moment, il sent la fibre divine tressaillir en lui. Une curiosité alors s'éveille, une attirance le ramèneront souvent vers ce point lumineux. Et à chaque fois, il sentira une envie de devenir bon, doux, aimant, patient, charitable. Et il éprouvera une répulsion pour le faux, le laid, l'injuste, le violent. Son corps spirituel n'attend qu'un seul instant pour pouvoir se révéler à lui. Il va naître. Et lorsqu'il va naître, son corps spirituel, il ouvrira les yeux, car les yeux qu'il ouvrira, ce sont... Par les yeux qu'il ouvrira, ce sont les yeux de son âme. Et il commencera à prier, pardon, et il commencera à crier. Et ce cri, ce sera le commencement de sa prière. C'est joli. C'est joli. Il faut d'abord découvrir donc l'aspect spirituel de son âme, comme un petit point lumineux qui est au centre. Et là, tout de suite, il y a cette tranquille amour du bien, de l'humilité, de l'effacement, de la tranquillité, de la confiance, de la douceur, de la pureté. Et en même temps, on retrouve cette enfance, voyez, cette innocence d'origine. Et en même temps, on sait que ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'est pas bon que l'âme spirituelle soit seule. Il y a un mariage entre l'âme spirituelle et le corps spirituel. Et ce corps spirituel et ce mariage entre le corps spirituel et l'âme spirituelle est actuellement dans un état, j'allais dire, malheureux, puisque c'est un état de divorce. Alors le corps est séparé de l'âme spirituelle, et c'est pourquoi ce corps que nous vivons est un corps humain, opaque et terrestre. Oui, alors comme la mère reçoit avec amour les premiers vagissements et le premier regard de son enfant, l'Esprit Saint fait de même. Il porte l'âme spirituelle en l'entourant d'amour, de chaleur, et la porte, comme on livre un enfant dans les bras de sa mère, il la porte et livre maternellement cette âme dans les bras de la très sainte Vierge Marie, fait de tendresse, de chaleur, de lumière. L'âme spirituelle trouve ici son but, son havre de paix, dans la tendresse d'une mère. Et la tendresse de la mère la caresse dans l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis devenu prisme. Vous voyez, ça rejoint le globe de cristal. Je suis devenu prisme où se réfractent les sept couleurs de l'amour du Saint-Esprit, qui arrive directement du cœur sacré de Jésus-Christ. Mon âme capte et émet sans cesse par des ondulations ondoyantes. Que sont les ondes? Les ondes, c'est la présence vivante. Dans un mouvement en spirale, montant et descendant sans cesse, un va-et-vient continu du ciel à la terre, donc la présence de Dieu à l'âme et de l'âme à Dieu en centre d'elle-même, nous met en contact avec les forces divines qui nous permettent de sortir de notre condition d'être déchu, pour nous aider à retrouver sur cette terre la plus grande partie de ce que nous avions perdu. Il faut retrouver son âme spirituelle. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose qui est très beau à faire et très grand. Cette âme spirituelle, elle est facile à retrouver. Ah, je voudrais vous faire passer ça, vous comprenez? C'est une lumière, elle est là, elle est tranquille, mais elle est... C'est ce que disait la petite Anne de Guigné, et on va aller manger maintenant. Quand elle disait que quelqu'un, c'était sa mère qui était effrayée par je ne sais plus quel malheur, tout ça, quand une grande personne qui sortait de l'église en disant c'est terrible, mon Dieu, enfin, vous voyez, on se plaint toujours, mon mari, ceci, cela, mon enfant est parti dans un bouge, c'est terrible et tout. Et Anne de Guigné, elle disait, mais pourquoi vous tourmentez puisque Dieu est là?